D'ici une dizaine d'années, les derniers porteurs là, de 3000 ans d'histoire, là, de forge puis d'évolution dans ce domaine-là, sont appelés à disparaître. Si tu veux sauver les métiers traditionnels, commence par la forge, parce que les forgerons vont faire les outils des autres métiers traditionnels. Des bons outils pour travailler le bois, des bons outils pour travailler la pierre. On a commencé à construire des villes, des villages, des cathédrales. C'est tout le fer, ça. La forge, c'est ce qui nous a fait sortir de l'âge de pierre.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard, animation, accompagné pour ce dernier segment de Robert Daudelin. Bonjour, Robert.
Rebonjour.
Rebonjour, oui. Effectivement. Et nous recevons Olivier D. Asselin. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Afin de parler du film Fondation. Moi, j'aime bien, je veux dire, la présentation du film « Le combat d'un forgeron passionné contre la disparition d'une partie de notre mémoire collective
mm-hmm. ». Ben,
Mathieu Colette,
ouais.
ce forgeron, où l'as-tu ouais. trouvé?
Ben, c'est un chum d'enfance.
Ah,
en fait.
OK. Voilà.
C'est souvent là.
Il y a une complicité entre vous deux. Hein.
C'est ça qu'on cherche en documentaire. Là, pour moi, l'ingrédient premier, c'est la confiance que tu arrives à avoir avec la personne devant la caméra. Puis donc, les gens qui ont déjà une confiance, qui ont déjà une complicité, ben pour moi, ça fait les meilleurs films parce que justement, on oublie la caméra, puis on embarque. Puis en cinéma direct, de même, ben on est là longtemps, on est là dans les pattes, mais on attend que ça se passe, les affaires, au lieu de parler uniquement des enjeux.
Ben, le mot « longtemps » est pertinent pour ce film-là parce que ça s'est étalé sur plusieurs années, votre tournage.
Oui, vraiment, avec 4 ans, en fait, dans tout et partout, avec la post-prod. Fait que c'est ça, c'est un long combat. Puis c'est 200, plus de 200 heures de rush. Puis, mais c'est
mais
ça.
Comment ça se passait? Mathieu, ouais. Il vous appelait quand quelque chose était à la veille d'arriver ou si vous alliez faire votre tour au hasard de vos autres tournages, j'imagine?
Oui. Ben on finit par y aller un peu tout le temps parce que il s'est passé tellement d'affaires aussi pendant ce temps-là au Forge de Montréal. Que oui, moi je voulais, puis je lui demandais, je lui disais, oublie pas de m'appeler s'il y a quelque chose, tout ça. Mais là, il me disait, OK, parfait. Mais là, il me disait, OK, ben là, la semaine prochaine, tel jour va se passer ça. Fait que là, j'arrivais la semaine d'après, puis c'était pas ça pendant tout, mais il y avait quelque chose d'autre qui était arrivé. Fait que là, il était dans d'autres choses. OK, fait que là, on partait. Puis là, il me disait, OK, mais reviens après demain, là, il y a ça qui va se passer. Puis là, j'arrivais, puis c'était pas ça pendant tout, mais il y avait encore plein de nouvelles affaires qui se passaient. Fait que c'était vraiment un marathon, si tu veux, autour de Mathieu, autour du projet des Forges, puis tranquillement, avec le temps, autour de la communauté des Forges de Montréal. Parce que c'est ça que moi, j'ai vu apparaître. C'est vraiment une communauté, une collectivité se créer autour du rêve d'un gars, de l'utopie d'un gars, je pourrais même dire. Puis c'est ça que j'ai eu le goût de rencontrer dans le film.
Parce qu'il y a deux aspects qui nous frappent lorsqu'on regarde le film. C'est la personnalité de Mathieu Colette. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui croit aux forges, qui ses ancêtres étaient des forgerons et veut perpétuer cette tradition, ce savoir-faire. Et lui-même, je veux dire, est solide. Là. C'est puis il a sa voix et on adhère. Et on adhère à ses propos.
Hein.
C'est un vrai forgeron.
Le casting est impeccable.
Et à côté, il y a un suspense. Il y a ce personnage-là, puis à côté, il y a le fait de savoir si oui ou non ce lieu qui est enclavé dans le Griffintown va réussir finalement à passer à travers le temps. On est toujours pris entre la force de cette personne.
Et les fonctionnaires.
Et les fonctionnaires, et les Renault, et tout. Ouais.
Mais c'était un peu ça le défi, si tu veux, de la construction narrative de ce film-là. C'était bien sûr, il y avait un enjeu très administratif plate, filmé un peu nerveusement parce que ça se passe, c'est politique, tout ça. Mais il y a un sujet qui est tellement photogénique, qui est tellement profond, puis qui nous pitche dans carrément nos origines, que je voulais essayer en fait de trouver un équilibre entre raconter une histoire à suspense, une espèce de thriller administratif, mais mettre là-dedans la magie de la forge, la magie du métier. Puis, fait que c'est ça, on passe d'un style à l'autre. Boum, on fait des espèces de plongées comme ça dans l'histoire, dans ce que ça veut dire, dans ce que ça représente aussi, la forge en tant que, pour notre culture. C'est quoi ça, le patrimoine immatériel? Ces gestes-là que ces forgerons-là puis que les autres artisans des métiers traditionnels y font, c'est pas juste pour faire un outil, c'est pas juste pour faire un objet, c'est carrément de la transmission culturelle, tu sais. C'est
fait que pourtant le résultat est impressionnant, notamment quand il fabrique une arche. J'ai jamais vu une belle arche comme ça. Hein.
Puis elle va durer.
Ben oui.
Puis vous pouvez la donner à vos petits-enfants, à vos enfants.
Nouveau. Ça n'a rien à voir avec aller chez Rona parce que tu as besoin d'une arche. Hein.
En quelque part, c'est l'économie de demain. Moi, je trouve ça beau. À un moment donné, il me disait quand il n'y aura plus de pétrole, là, il reste ce qu'on est capable de faire avec nos mains. OK? Puis de tous les métiers traditionnels, le forgeron est essentiel parce que c'est lui qui fait les outils de tous les autres. Fait qu'il dit, avec un feu de forge, tu repars une société. Il y a vraiment cette espèce de belle vision-là, puis pour laquelle il a fait des sacrifices. Oui. Parce que retaper un bâtiment comme ça, là, qui avait été laissé à l'abandon pendant 30 ans par la Ville de Montréal, qui avait de la terre battue à terre, qui avait des trous dans le toit, c'est lui, la petite gang qu'il y avait autour de lui, des forges de Montréal, c'est eux autres qui ont posé l'électricité, la plomberie, qui ont tout retapé la place. Là. C'est quelque chose, là, demander ça à une petite OBNL à l'époque. Là, bon, fait qu'il y a eu des affaires assez bizarres par la Ville de Montréal sous l'administration Tremblay de faire des bails en exigeant des affaires de même d'une petite OBNL. Là. Mais si on passe à côté de ça, ils ont fait des sacrifices assez fous pour ce rêve-là, pour cette utopie-là. Puis moi, c'est ça qui me fascine aussi, puis que je veux présenter. C'est il y en a qui y croient, puis qui sont prêts à...
Ce que dans l'entreprise du film, c'est qu'il y a effectivement, puis Guy utilisait le mot suspense, il y a le merdier dans lequel ils essayent de se dépêtre. Mais à côté de ça, on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur le métier de Mathieu, puis la beauté des gestes. Et effectivement, l'héritage dont vous parliez, c'est convaincant, la démonstration qu'il en fait. Okay. Je veux dire, c'est pas juste une grande gueule, ce gars-là.
Ouais.
C'est un vrai artisan qui fabrique des choses formidables, et la beauté du geste est là tout le temps.
Ouais. Et ce qui est intéressant, parce que le fait que ça soit une connaissance, soit un ami, nous permet de rentrer à l'intérieur du personnage, parce que oui, on parle des forges, on parle de sa savoir-faire, mais on sent chez lui cette force de caractère, mais aussi certaines faiblesses, là, parce qu'il y a un moment donné, ça vient lourd, puis il y en a marre. Donc, le personnage reste fondamentalement humain.
Mais oui. Puis c'est ça aussi qui faisait que... Moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais en quelque part, quand je parlais à Mathieu pendant qu'on tournait, je disais, mais parle-moi de toi un peu. Tu sais, d'où tu viens, tout ça. C'est un gars qui l'a pas eu facile.
Non.
OK? Hein? Puis la forge, dans ses propres mots, c'est quelque chose qui lui a un peu sauvé la vie. Il est tombé là-dedans, puis à un moment dans sa vie, où est-ce qu'il fallait qu'il s'en sorte? Il fallait qu'il fasse. Puis il a appris ce métier-là, puis d'un coup, c'est devenu une révélation. Il est devenu un maître comme ça. Mais pour moi, c'est en montrant un peu ça, d'où il part, qu'on comprend pourquoi il décide de pas être un gars qui est capable d'avoir une niche, d'avoir des clients privés multimillionnaires, tu sais, qui ont des gros portails. Ben, c'est ça, hein, aujourd'hui, les métiers d'art, c'est ça, malheureusement, l'économie puis le marché de ces artisans-là. C'est les très, très riches qui peuvent se le payer. Lui, il aurait pu décider, tu sais, d'être très bien payé puis de travailler pour des riches d'un peu partout sur la planète. Là. Il peut en avoir des contrats partout. Pourtant, lui, il décide, non, moi, je veux redonner ce que j'ai de meilleur, puis c'est mon savoir-faire, c'est ma connaissance. puis au plus de monde possible. Lui, il dit c'est à 7-8 ans que c'est mieux pour les former, tu sais. Il veut que tout le monde apprenne la forge, tu sais. Mais pour l'autonomie que ça te donne, tu sais, c'est vrai, là, quand tu peux te faire tes outils, tu sais, c'est l'autogestion, en quelque part. C'est tout... c'est small is beautiful, là. C'est ton jardin, là, si t'as pas besoin d'aller t'en acheter 3-4 dans une vie, une bêche, parce que t'en as fait une toi-même, puis elle est dure, là, ben bravo, là. C'est comme ça qu'on va repousser notre temps sur Terre un peu, là.
Parce que dans Pipeline, pouvoir et démocratie, il y avait un point de vue politique. Puis ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'à travers ce personnage de Mathieu, on retrouve aussi ce cinéaste s'engager socialement, parce qu'essentiellement, les bouts que vous avez conservés des différentes entrevues nous ramènent toujours à une économie responsable.
Mm-hmm.
Alors, y a encore ce discours social,
ouais,
qui vient
clair.
Par s'intégrer au personnage, à toutes ces bisbilles administratives, mais on sent que vous êtes fondamentalement un cinéaste engagé et que le documentaire sert à un certain discours.
Ben oui, c'est clair. Puis c'est pas une cachette, hein. Les médias, c'est un pouvoir politique, hein. Depuis les années 90, l'hypermédiatisation de la guerre en Irak, tu sais, live sur quasiment Facebook à l'époque, même si ça n'existait pas. Tu sais, on le sait, là, les médias, c'est un pouvoir politique. Puis fait que moi, ça me rend très heureux quand je peux trouver des bonnes histoires qui portent un message fort. Parce que, comme je le dis souvent, ça fait que le film, l'œuvre que je fais, ben, c'est pas juste un bel objet, c'est quelque chose qui vit après, parce que les gens peuvent l'utiliser pour se mobiliser. C'est un outil de mobilisation, t'sais. Fait que cette deuxième fonction-là, oui, moi, ça m'aide à me sentir bien en tant que citoyen, t'sais, qui s'indigne de plein d'affaires autour de moi.
Le film, on parlait d'un suspense. S'il y a un petit bémol, c'est un film que j'ai adoré, s'il y a un petit bémol, c'est qu'à la toute fin, on ne sait pas trop ce qui se passe avec cette histoire-là. Mm-hmm. C'était voulu de laisser tout ça, j'imagine que oui, là, un peu dans vague, parce qu'on mm-hmm. termine à l'époque, lorsque le tournage mm-hmm. chez Kalanick, ça s'est terminé le tournage
2017,
grosso modo, parce
ouais.
que la mairesse vient de prendre le ouais. pouvoir, donc imagine que c'est oui. 2017. On sait que ça prend toujours un certain temps avant de monter le film, puis mm-hmm. d'avoir les finances.
Mm-hmm.
Et là, on se dit, le film, c'est en 2019. Vous vouliez pas rajouter un carton pour nous dire où en est le film?
Moi, je suis allé sur le web en rentrant à la maison pour voir si les forces de Montréal avaient toujours un site.
Ouais. Ouais.
Toujours à Riverside, bon, je dis.
C'était voulu, oui. tout ça?
Ben, c'était voulu.
Question?
Si j'avais, si c'était un de moi, j'aurais fait un beau happy ending, puis tout le monde aurait gagné leur stabilité-là pour 200 ans, là, t'sais, un bail amphithéotique, puis tout. Pour pouvoir vraiment faire le projet qui porte. Mais dans le fond, c'est ça. En documentaire, on est ouais. tributaire de ce qui se passe pour de vrai. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme une bataille de terminer, de remporter à ce moment-là. Ils ont gagné le droit de l'éviction a été levée. Puis ça, c'était un gros morceau.
Ça, on n'en a pas parlé, mais il y en a plein d'histoires
ouais.
parapublic et public.
Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Des David contre Goliath, d'une machine administrative ou économique, des condos, tout ça, il y en a, on s'entend. Mais là, écoutez, ce qui a changé depuis la fin du film, premièrement, c'est, comme je disais tantôt, c'est la communauté du film. Aujourd'hui, c'est plus un gars seul avec son rêve, c'est toute une gang, c'est tous des partenaires solides aussi. Fait que tout d'un coup, c'est pas la même game pour essayer de le tasser. Mais en plus, c'est que l'administration nouvelle de Valérie Plante a une écoute complètement différente. Ils sont déjà en négociation avec la Société immobilière du Canada pour acquérir le terrain. On espère que ça se passe assez rapidement. On sait qu'il y a le service des immeubles à la Ville de Montréal qui doit discuter avec les Forges de Montréal d'un nouveau bail, puis des termes d'un nouveau bail. Mais disons que tout est très encourageant, puis la communication est là. Ça n'a rien à voir avec quand Coder était au pouvoir. Et fait que c'est ça. Mais comme on dit, en tant que c'est pas fini, tant que c'est pas signé...
C'est pas signé.
C'est ça.
Mathieu a fait des belles choses entre-temps.
Oui, il continue. Il fait plein de belles choses. Il prend soin de lui aussi parce que c'est lourd tenir tout ça, là. Mais comme il est bien entouré maintenant, je pense que on n'a pas à craindre pour lui. Là.
Merci beaucoup, Olivier Desasselin. Donc, Fondation, qui a pris l'affiche hier au cinéma du musée, hein, qui devrait être là cette semaine, peut-être la semaine prochaine.
Oui, espérons qu'il reste là le plus longtemps possible. Le cinéma d'auteur, hein, c'est un autre combat. Hein. Faut venir le voir au cinéma, puis ça nous aide à en faire d'autres, des films.
Oui, oui. Vous avez bien raison. Faut le voir sur le grand écran. Hein. Le film est beau dans une grande image.
Ouais. Donc, merci beaucoup, Robert Daudelin, Pierre Pageot, Guy Ménard à l'animation. Bon, merci, Maxime, technicien à la régie.
C'est même Georges qui est venu nous rendre visite.
Donc, nous, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine, toujours derrière l'image, une heure de cinéma Radio Centre-Ville, samedi de 9h à 10h.